Bien, dans nos premières conférences, nous avons voulu donner plutôt un peu théorique, peut-être parfois un petit peu difficile, sur la nature des anges, leur création, leur nature, leur activité, comment ils agissent. Il faut maintenant en venir à des choses qui, je pense, seront un peu plus accessibles, plus faciles, et un petit peu nos rapports directs avec le monde des esprits, que ce soit le monde des anges ou le monde des démons, hélas. Donc cette fois-ci, nous parlerons des anges, les anges, les bons anges, ce qu'on appelle les bons anges. Saint Thomas d'Aquin a une question là où il parle justement de la garde des bons anges, comme il dit, c'est joli, mais la garde des bons anges qui sont là pour nous garder. Et nous verrons plus généralement un petit peu comment se passe l'activité des anges au profit de l'ordre créé, que ce soit l'ordre humain essentiellement, bien sûr. Et puis plus spécialement, bien sûr, les anges gardiens, ce qu'on appelle les anges gardiens, sont des choses assez... qui nous sont peut-être familières, mais qui sont importantes. Hein. Je trouve que ce monde des anges est tellement beau. C'est ce qu'il y a de plus beau, peut-être, dans l'ordre créé. Hein. C'est sûr, c'est penser que nous sommes environnés comme ça de millions d'esprits, bon, invisibles, bien sûr, nous ne les voyons pas, mais ils sont là. Ils sont là autour de nous, ils veillent sur nous, ils nous regardent, et ils sont tout prêts à nous aider, à nous secourir. Bon, il y a cette foule de bons anges donc, qui nous entourent. Il y a aussi les autres, mais les autres, bon, on en parlera une autre fois. Hein. Pour l'instant, nous préparons à Noël, donc quand même, il est mieux, je crois, de parler des bons anges, hein, ceux qui chantent Gloria, et non pas les autres qui chantent autre chose. À titre indicatif, pour ceux que la question intéresse, je vous avoue tout, oui, pratiquement la première conférence et un petit peu la deuxième, je me suis servi, j'ai puisé dans cette petite plaquette qui a été rééditée par petite plaquette faite par le père Don Maréchaux, qui était le successeur du père Emmanuel au Ménil-Saint-Loup. Vous connaissez peut-être un petit peu cela. Et qui a fait une petite plaquette, oui, sur le monde des esprits, anges et démons. Oui, je ne suis pas allé chercher mon titre très loin, je ne me suis pas cassé la tête. Et vous avez là-dedans, pratiquement, je trouve, c'est très très bien fait, une petite synthèse, un petit résumé de toute la doctrine sur ce monde des anges et des démons. Bon, puis maintenant, je développe un peu plus, essentiellement en me servant de l'auteur, qui est notre auteur à tous, l'auteur de l'Église catholique, c'est saint Thomas d'Aquin, bien sûr. Donc un peu ce monde des bons anges, c'est donc d'eux que nous parlerons cette fois-ci. Quelle est leur fonction, leur première fonction, leur premier rôle? L'ange, d'abord, c'est un esprit qui vit dans la gloire de Dieu. Il vit dans le face-à-face avec Dieu, il contemple. Bon, de façon purement spirituelle, bien sûr, hein, puisqu'il n'a pas de corps. Et il faut se méfier, hein, de toutes les représentations que l'on peut faire. Hein, ça, il faut bien parler des anges, que si vous voulez, comme le bon Dieu. Mais on a du mal à parler des esprits, Dieu qui est pur esprit, les anges qui sont esprits. On a du mal à en parler et à rendre leur nature accessible sans utiliser bien des sortes, ce qu'on appelle des analogies ou des anthropomorphismes. Mais bon, on parle d'eux comme s'ils étaient un petit peu comme nous, pour qu'on arrive à comprendre un petit peu. Alors c'est pour ça bien qu'on leur met des ailes, parce que voilà, on leur met des bonnes joues. Bon, je m'arrête là parce que voilà, on leur donne tout un tas de représentations qui ne veulent rien dire en soi. C'est sûr que les anges ne sont pas comme ça. Ils ne ressemblent à rien puisqu'ils sont de purs esprits. Et ce sont donc d'abord des esprits purs qui sont donc, je dirais, noyés, immergés un petit peu dans la gloire de Dieu. Et toute leur vie, justement, bien, c'est d'adorer Dieu, d'être béat, oui, d'admiration, d'adoration devant la splendeur de Dieu. Cette béatitude, ils l'ont méritée, bien sûr, par ce consentement qu'ils ont donné, hein, ce mouvement de la grâce qui était en eux. Ils ont dit oui, ils sont rentrés dans la gloire, et depuis, eh bien, ils contemplent la face de Dieu. Façon de parler aussi, bien sûr, puisque Dieu n'a pas de face, n'a pas de visage, mais ils contemplent la gloire de Dieu. Et toute leur vie, eh bien, c'est ce que dit Saint Grégoire, oui, c'est un bond d'allégresse, c'est un mouvement d'admiration. Oui, toute leur vie, eh bien, c'est cela. Admirer Dieu, être un petit peu autour de Dieu, oui. Cette sorte de cour céleste, cour d'adorateurs qui chantent la louange de Dieu. Alors ils font cela, et cela tous les anges le font, quels qu'ils soient, quelle que soit la catégorie, l'ordre, la hiérarchie, leur place dans la hiérarchie des anges, tous, hein, chantent la gloire de Dieu. Et puis ils ont en plus alors cette autre activité par rapport à l'ordre créé. Nous l'avons dit déjà la dernière fois, nous avons évoqué un petit peu justement ce rôle des anges, même auprès du monde matériel. Nous avons vu cela un petit peu, que les anges, sont un petit peu les relais de Dieu, justement, pour, eh bien, gouverner le monde. Ce sont eux qui régissent un petit peu le cours des planètes, tout ça, tout ce qui se passe sur la Terre. Eh bien, tout cela est administré par les anges. C'est Dieu, bien sûr, qui est le maître, etc., mais ensuite, eh bien, tous les ordres de Dieu, toute la sagesse de Dieu, qui est-ce qui l'applique? Mais à l'ordre créé, eh bien, ce sont les anges. Tout ce qui existe, toutes les créatures entre ces anges. Et puis chacun est responsable, eh bien, de la gestion d'une partie du matériel créé. Ouais, il y en a qui sont responsables des fleuves, d'autres des platanes, d'autres de ceci, de cela. Bon, enfin, voilà. Et c'est vrai. Bon, ça peut-être un peu nous faire sourire. Bon, c'est clair, mais c'est tout à fait sage. Hein. Dieu ne fait pas tout lui-même directement. Quand Dieu intervient directement, nous l'avons dit, c'est généralement le miracle. Et tout le reste, eh bien, il confie cela à ses ministres, que ce soit les anges, que ce soit les hommes, hein, qui sont chargés donc d'exécuter les ordres de Dieu. Et nous avons vu donc que, je ne reviens pas là-dessus, donc ce que disait saint Thomas, à savoir que toutes les choses corporelles sont gouvernées par les anges. Tout le monde des corps est gouverné par les anges. C'est extraordinaire. Hein. Bien sûr, nous ne le voyons pas. Oui, cette cascade qui tombe, là, qui coule, eh bien, elle coule parce qu'il y a un ange qui l'a fait couler. Mais elle coule à droite, à gauche, ici, cela. C'est un ange qui s'occupe de tout cela. Eh oui, mais c'est vrai. Si on a la foi, c'est une chose qui nous paraît presque évidente. Oui. Si j'ai pas la foi, bien sûr, ça c'est, j'explique tout par les mécanismes biologiques, physiques, tout ce qu'on veut, etc. Mais si j'ai la foi, sans doute, il y a aussi le monde physique. Il ne s'agit pas de faire de l'angélisme, comme on dit, c'est vrai, mais il y a une collaboration. Hein, ces lois physiques, ces lois du monde physique existent, c'est vrai, mais elles sont en plus, je dirais, gouvernées, régies par le monde des anges et bien sûr par Dieu en ressort ultime. Et alors ensuite, eh bien, les anges ne se contentent pas ainsi de régir le monde corporel, et même dans ce monde corporel, eh bien, il y a une certaine mission, ce qu'on appelle une mission des anges. Ouais, c'est une question que se pose saint Thomas. Est-ce que les anges sont envoyés? Ils sont tous donc dans la gloire de Dieu, mais est-ce qu'ils sont envoyés donc vers l'ordre créé? Bien sûr, il répondra que oui. Pourquoi? Bien parce que la puissance de l'ange n'égale pas la puissance de Dieu. Dieu seul a le gouvernement sur toute la création. Ouais. Et quand il va s'agir donc de confier telle ou telle catégorie de corps ou d'êtres à gouverner un petit peu, eh bien il va falloir justement désigner tel ou tel ange ou telle catégorie d'ange pour s'en occuper. Et ces anges, eh bien, n'ont pas justement le gouvernement sur tout, et c'est Dieu qui leur attribue à chacun ce rôle particulier. Hein, quand certaines choses doivent être accomplis par tel ange, voyez, dit saint Thomas d'Aquin, au sujet de telle créature corporelle, eh bien, il faut que cet ange soit mis en relation par sa puissance avec ce corps. Voyez. Eh bien, c'est ça que l'on appelle l'envoi d'un ange. L'ange reste dans la gloire de Dieu, mais il applique sa puissance au profit d'un corps. S'il s'agit de déplacer une montagne, par exemple, l'ange applique sa puissance et déplace la montagne. Pour lui, il n'y a aucun problème. Enfin, rien de plus facile pour lui que de déplacer une montagne. Ouais. Et c'est cela qu'on appelle l'envoi d'un ange. Un ange est envoyé. Ça ne veut pas dire que l'ange quitte le ciel pour descendre, il court au galop, etc., pour descendre sur la terre. Non, ça c'est... Bon, ce sont des images, des formules que l'on peut employer, mais qui en fait ne sont pas réelles, hein. Bien sûr. L'ange ne quitte pas le ciel pour venir sur la terre. L'ange est dans la gloire de Dieu, mais il applique sa puissance sur un corps, sur une catégorie de corps, sur un lieu, etc. Oui. Et l'ange fait cela, continue saint Thomas d'Aquin, en disant qu'il fait cela en tant que ministre. Oui, c'est ce qu'on appelle être un ministre. Le ministre, oui, bien c'est cela. Un ministre, c'est un instrument intelligent. C'est un instrument intelligent. Un ministre, ce n'est pas un instrument simplement physique. Vous voyez, si je prends, je ne sais pas quoi, moi, une baguette, un truc, une cuillère, ce n'est pas un ministre. On n'appelle pas ça ma cuillère, un ministre. Qui collabore intelligemment à l'action de son maître, à l'action de celui qu'il a choisi et qu'il a envoyé comme ministre. Oui, donc, ministre. Et bien, les anges sont donc des ministres. Et c'est ce qu'on appelle les ministères, les actions des anges au profit de la création. On appelle cela des ministères. On dit que les anges sont envoyés en ministère. Ils exercent des ministères sur la création. Et nous nous disions, hein, pendant ce ministère qu'exercent les anges, hein, ils ne quittent pas pour autant hein, le visage, la face, la présence de Dieu. Hein. C'est sûr, nous avons peut-être du mal à comprendre cela, parce que pour nous, nous ne pouvons guère quand même que nous appliquer qu'à une chose, qu'à une action véritable à la fois. Il est difficile de faire deux choses à la fois. Je sais bien qu'il y en a qui y arrivent, mais enfin, généralement, il y en a une qui est un petit peu loupée, quoi, parce qu'on est fait comme ça, on a besoin de se concentrer. Vous voyez, si je veux agir même intellectuellement sur quelque chose, mais il y a mon corps qui suit, qui accompagne ce mouvement intellectuel. Vous voyez, je ne peux pas séparer mon âme et mon corps comme ça, c'est quand même difficile, vous voyez, jusqu'à un certain point. On peut, mais jusqu'à un certain point seulement. Hein. On ne peut pas faire deux opérations, je dirais, intelligentes à la fois. Ce qu'il est possible de faire, parfois, c'est une opération mécanique et une opération intelligente. Les ménagères, par exemple, sont très douées pour faire cela, ouais, pour faire des opérations mécaniques et opérations intellectuelles à la fois. On peut très bien, effectivement, je ne sais pas quoi, moi, faire son ménage, faire du repassage, qui, je crois, ne demande pas un mouvement intellectuel très, très puissant, vous voyez. Bon, et puis en même temps, peut-être, prier, réfléchir, méditer, écouter des cassettes, je sais pas quoi, tout ce qu'on... Mais il y a une opération, si vous voulez, qui sollicite nos forces physiques, et puis une autre qui sollicite nos opérations intellectuelles. Ouais. Mais à condition que l'activité physique que l'on mène ne nous demande pas ouais, une activité intellectuelle trop puissante, sinon on peut plus. Voilà, on est tout absorbé par une seule action. Alors que les anges n'ont pas de corps. Ouais, ils n'ont pas de corps, ouais, donc il n'y a pas en eux cette sorte de dilemme entre les deux. Ouais. L'ange, nous dit saint Thomas d'Aquin encore, l'ange dirige ses actes extérieurs par sa seule opération intellectuelle, ouais, simplement une opération intellectuelle. Et ses actes extérieurs, donc intellectuels, n'empêchent en rien la contemplation. Ouais, parce que tout cela, en fait, ils le font dans la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. Hein, tout cela est... tout ce qu'ils font, toutes les activités extérieures qu'ils développent au profit de l'humanité, eh bien tout cela finalement c'est fait pour la gloire de Dieu, c'est dans la gloire de Dieu qu'ils le font. Donc ils ne quittent pas la gloire de Dieu. Et saint Grégoire dit que les anges qui vont au dehors, façon de parler bien sûr, ne sont pas privés des joies de la contemplation intime. Vous voyez, c'est magnifique. Hein. L'ange est dans la joie de la vision de Dieu. Mais tout en même temps, il peut quand même appliquer sa puissance hein, au profit de tel ou tel être humain. Alors bien sûr, ça c'est une chose qui à nous est quand même difficile. Hein. Alors ensuite, quels sont les anges qui sont envoyés? Est-ce que tous les anges sont envoyés? Vous vous rappelez, une doctrine que nous connaissons peut-être un peu, même si on se perd dans les ordres, dans les hiérarchies, hein, c'est 9 cœurs des anges, la première, la deuxième... Premier, deuxième et troisième ordre, hein. Premier ordre, donc, rappelez-vous, séraphins, chérubins, les trônes. Deuxième ordre, les dominations, les vertus, les puissances. Ouais. Et le troisième ordre, eh bien, c'est les plus petits, si on peut dire, les principautés, les archanges et les anges. Voilà. Alors, est-ce que tous ces anges-là, eh bien, sont effectivement envoyés en mission? Ouais, est-ce qu'il n'y en a pas quand même qui, peut-être, eh bien, ne sont jamais, jamais envoyés en mission? Alors tout ce que je vous dis là, attention, ça n'est pas de foi, hein, ce sont des réflexions des théologiens à partir de l'Écriture, à partir des pères de l'Église, mais tout cela n'est pas de foi, même l'existence des hiérarchies, ouais, de ces 9 cœurs des anges, cela n'est pas de foi. Donc vous pourriez à la limite ne pas admettre qu'il y ait 9 cœurs d'anges et vouloir en mettre 10, 12 ou 25, bon si ça vous amuse, mais faites attention quand même. Alors, cette question, est-ce que tous les cœurs des anges sont envoyés? Bien, si vous voulez, ce se réfère à un principe... Qui est universel dans tout ce que Dieu fait, eh bien, c'est que justement, Dieu gouverne toujours par des intermédiaires. Voyez, et il est normal, il est dans l'ordre, il est conforme à l'ordre des choses, eh bien, que les êtres inférieurs soient gouvernés par les êtres supérieurs. Et cela même dans le monde des anges. Voyez. Donc, que les anges inférieurs, eh bien, soient gouvernés, soient régis un petit peu, c'est donc par les anges supérieurs. C'est une chose qui est tout à fait logique. Donc il y en a sous les mêmes chez les anges, il y en a certains qui commandent et d'autres qui obéissent. Alors est-ce que tous vont être envoyés? Eh bien non, non, certainement pas. Précisément, sans doute, uniquement ceux des ordres inférieurs seront envoyés. Et seront envoyés, bon, sur l'ordre de Dieu bien sûr, mais envoyés par les anges des hiérarchies supérieures. C'est ainsi que sans doute les séraphins, les chérubins, les trônes, hein, qui eux sont les anges de l'amour, de la science et de la contemplation de Dieu, ceux-là très certainement ne sont jamais envoyés. Ceux qui sont envoyés, ce sont ceux des hiérarchies inférieures. L'ordre des anges est constitué par les différents degrés de grâce, oui. Et cela n'est pas, oui, une infériorité, hein, parce que le plus petit des anges, bon, si on peut appeler ça petit, bien, peut opérer l'opération la plus puissante qui soit. Il n'y a pas de limite à la puissance des anges. Cette puissance, elle est déterminée par la volonté de Dieu. Oui, c'est Dieu qui confie à un ange une mission, même si l'ange est tout petit, façon de parler, bien sûr, eh bien, Dieu peut lui communiquer, si vous voulez, ou lui faire développer une puissance, vous voyez, égale à, presque à la puissance divine elle-même. Vous voyez. Donc cela importe peu, vous voyez, c'est savoir si l'ange est petit ou grand, cela ne compte pas. Ce qui compte, c'est la hiérarchie. Où est sa place dans la hiérarchie? Est-ce qu'il est en position de commander ou en position inférieure, donc position d'obéir? Eh bien, s'il est en position inférieure, ce sera lui plutôt qui sera envoyé. Et les anges supérieurs, dit Denis, les anges supérieurs ne sont jamais envoyés pour un ministère extérieur, hein, seulement les anges donc des hiérarchies inférieures. Et nous verrons ensuite, eh bien, quels sont justement ces anges. Hein. Saint Thomas examine tout ça, c'est très, très intéressant. C'est, à la limite, il suffirait que je vous lise Saint Thomas d'Aquin, bon, enfin, parfois c'est peut-être un petit peu difficile, mais tout est très beau. Hein. Il y a de quoi contempler pendant une vie entière, hein, sur ce monde des anges. Parce que précisément, bon, c'est un peu la question à laquelle j'ai presque déjà répondu, hein. Saint Thomas se pose cette question ensuite: est-ce que tous ces anges qui sont envoyés en ministère, eh bien, siègent quand même encore devant Dieu? Oui. Est-ce qu'ils restent, si vous voulez, assistants du trône de Dieu? Eh bien, la réponse, elle est presque révélée dans la Sainte Écriture, hein, et nous allons voir dans quel ordre ça s'applique. Oui, c'est l'ange de Tobie. Vous connaissez l'histoire de Tobie, qui est très très belle, hein, cet ange qui vient au devant du jeune Tobie pour l'emmener, le guider pendant son voyage. Bon, très bien. Puis ensuite, qui le délivre, là, ce vilain poisson, là, qui voulait lui faire des misères, etc., qui lui ouvre le ventre, qui lui prend le fiel, etc., oui. Qui ensuite le continue avec lui, et puis lui trouve une femme au passage, en plus, c'est merveilleux, etc. Bon. Mais, et c'était un risque, hein, parce que cette pauvre femme, comment s'appelait-elle, je ne sais plus très bien, elle avait eu 7 maris qui tous étaient morts le premier jour. Hein. Alors, pensez que les parents n'étaient plus très chauds pour la donner en mariage, et il n'y avait plus beaucoup de prétendants non plus. Hein. Et puis voilà, Tobie qui arrive, et puis qui, grâce à cet ange-là, qui l'accompagne, eh bien, survit, si l'on peut dire, au mariage. Très bien. Il peut continuer donc avec son épouse. Ne me fais pas dire ce que je ne dis pas. Je vous raconte, c'est dans la Bible, ça, c'est pas moi qui l'invente. Hein. C'est révélé, c'est une histoire authentique, réelle. Hein. Ensuite, bon, elle peut aller rechercher l'argent que son père voulait qu'il lui ramène, et puis il est ramené donc sain et sauf chez son père, et ensuite avec le fiel donc de ce poisson, eh bien, délivre le vieux Tobie, le père Tobie, de sa cécité. Voilà, il lui met le sein sur les yeux, puis ça y est, le père Tobie lui retrouve la vue. Alors évidemment, c'est la grande joie, tout s'est bien passé, etc., tout le monde est heureux, et on veut donner à ce jeune homme qui a accompagné Tobie, et qui a été si bienveillant, si bon, on veut lui donner une récompense extraordinaire, même jusqu'à la moitié des biens, etc. Et puis, ce genre de choses, pas la peine, vous savez, tout ça, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Hein. Je suis l'ange Raphaël, un des 7 qui nous tenons devant Dieu. Alors, pauvre, tout le monde tombe à plat ventre, ou presque, pour adorer cet ange, puis pauvre. Et Raphaël s'en va, c'est fini, il a rempli sa mission. Vous voyez donc cette phrase de l'ange Raphaël. Je suis l'ange Raphaël, un des 7 qui nous tenons devant Dieu. Et donc, oui, cet ange, l'ange Raphaël, tout en accomplissant son ministère auprès de Tobie, eh bien, malgré tout, eh bien, est un des 7 anges qui se tient devant Dieu. Alors, voilà un petit peu, je dirais, comment on explique cette chose. Oui. Saint Grégoire, toujours Saint Grégoire, qui nous dit: autour de Dieu siègent les puissances qui ne sortent pas pour aller annoncer des choses aux hommes. Donc, ajoute Saint Thomas d'Aquin, ceux qui sont envoyés en ministère ne siègent plus. Mais attendez, vous allez essayer. J'espère du moins vous allez comprendre hein, comment elle explique tout ça. Oui. C'est pas très très difficile. Mais il faut répartir simplement les anges, vous voyez, dans ces neuf cœurs. Ces anges entre deux grandes catégories. Les anges se répartissent en assistants. Il y a ceux qui assistent, le trône de Dieu, et en administrateurs, à la manière des familiers d'un roi. Dans la cour d'un roi, généralement, il y a des gens eh bien, qui ne quittent jamais la cour, qui sont là autour du roi, qui sont ses conseillers, qui sont ses... Bon, qui sont là, simplement, et qui ne quittent jamais la personne du roi. Ouais, ce sont les assistants. Même, je dirais, autrefois, je ne sais pas si ça se fait maintenant encore, mais à Rome, à la cour pontificale du pape, il y avait des assistants au trône. En fait, des assistants au trône, Mgr Lefebvre, par exemple, a été assistant au trône. Bon, c'était... À la fin, c'était devenu purement honorifique. Il est sûr que Monseigneur n'a pas passé son temps à assister aux côtés du trône du pape. Ça, c'est clair. Nous savons bien qu'il a fait mille autres choses. Mais c'était pour manifester ce qui se faisait autrefois, justement, simplement des gens qui composaient la cour du roi ou la cour du pape et qui ne quittaient jamais sa personne. Et puis ensuite, il y en a d'autres qui composent donc la cour du roi, quand même, qui sont, eux, des administrateurs, donc qui s'occupent davantage des affaires extérieures, vous voyez, qui sont donc dans la familiarité du roi, mais qui s'occupe des choses extérieures. Donc il y en a qui l'assistent toujours et qui écoutent directement ses préceptes, tandis que les autres reçoivent les préceptes royaux grâce à ceux qui se tiennent toujours près du roi. Et donc ceux-ci sont appelés des ministres, mais non pas des assistants. Vous voyez, donc dans la cour des anges, dans la milice céleste, vous avez des assistants et vous avez des ministres. Vous voyez. Et donc, continue saint Thomas, c'est saint Thomas qui parle, vous voyez, c'est très simple saint Thomas, c'est pas difficile. Hein. Nous devons donc penser que tous les anges vivent dans la présence, vivent dans la cour du roi. Hein, ils sont là, ils voient le roi, ils restent à proximité de lui, même quand ils exécutent ses ordres. Vous voyez. Donc tous les anges voient immédiatement l'essence divine, ils voient tous Dieu. À ce point de vue, eh bien nous dirons que tous, même ceux qui sont dans le ministère, se tiennent devant Dieu. Oui, ils ne quittent pas Dieu pour exercer leur ministère. C'est pourquoi Saint Grégoire dit que ceux qui sont envoyés dans le ministère extérieur pour notre salut peuvent toujours siéger et voir la face du Père. Oui. Et ils peuvent toujours revenir siéger, arrêter leur ministère simplement, pouf, et se remettre simplement face à Dieu pour l'adorer et tout. Oui. Donc ceux qui sont envoyés dans le ministère extérieur pour notre salut, peuvent toujours siéger et voir la face du Père. Oui. Donc ça, c'est les anges, si vous voulez, qui sont peut-être les moins proches de Dieu. Peut-être, ce ne sont pas ceux qui vivent vraiment dans l'intimité, la plus grande intimité de Dieu, mais ils voient quand même Dieu. Oui. Mais tous les anges, continue saint Thomas, ne peuvent pas percevoir les secrets des mystères divins dans la clarté même de Dieu. Et cela est réservé aux anges supérieurs. Oui, ce sont les anges supérieurs, les hiérarchies supérieures, qui eux, les pénètrent véritablement dans l'intimité de Dieu. Oui. Et ceux-là n'en sortent jamais. Ils n'en sortent jamais. Et puis les autres qui voient Dieu, mais peut-être de façon moins pénétrante, moins intime, ceux-là, eh bien, ce sont eux qui vont être appliqués au ministère extérieur. Oui. Et donc cette pénétration des secrets de Dieu est réservée aux anges supérieurs, et ce sont ces anges supérieurs qui ensuite eh bien, vont les révéler ou les annoncer aux anges inférieurs. Ouais, ce qu'ils ont vu en Dieu, les anges supérieurs vont le communiquer aux anges inférieurs. Ouais. Et donc c'est d'après cela eh bien, que l'on dit que seuls les anges supérieurs, qui sont ceux de la première hiérarchie, donc séraphins, chérubins et trônes, sont dits vraiment siéger devant Dieu. Parce que eux, vraiment, ils ne font que cela. Ils siègent devant Dieu. Ils ne quittent jamais, véritablement, l'assistance de Dieu. Eux, ils ne font que cela. Alors que les autres, ils le font également. Oui, ils siègent devant Dieu, mais également, ils exercent un ministère extérieur. Et c'est vraiment le propre de ces trois premières catégories, ces trois premiers ordres d'anges, hein, les séraphins, les chérubins et les trônes, d'être illuminés directement par Dieu. Alors, est-ce que tous les autres anges, eux, sont envoyés? Eh bien, oui. Bon, tous, je dirais, l'un après l'autre, ça, j'avoue que Dieu seul le sait, mais en tout cas, tous les anges qui sont envoyés ensuite, eh bien, sont pris dans les autres catégories d'anges. Avec une catégorie qui est un peu particulière, qui fait l'intermédiaire, c'est celle des dominations. Oui, les dominations qui sont comparées, nous dit saint Thomas, un peu aux architectes. Les architectes qui travaillent, mais sans être employés à l'œuvre même. Mais ce sont eux qui, si vous voulez, un petit peu dominent, justement, les dominations, qui gouvernent, qui dirigent un petit peu le ministère des anges, des cinq catégories inférieures, donc les vertus, les puissances, les principautés, les archanges et les anges. Oui. Alors, comment détermine-t-on un peu les activités, les ministères des anges? Eh bien, tout simplement d'après leur nom. Ça, c'est une caractéristique, une note très, très, très hébraïque, et qui est passée d'ailleurs même dans, je dirais, dans nos civilisations, hein, à savoir que le nom n'est pas arbitraire, c'est pas quelque chose qui n'a pas de rapport avec la nature de la chose. Le nom est relatif à la nature de la chose. Ouais. C'est pourquoi le nom qu'on donne aux enfants est important. C'est pas... on dit, oh, tout ça c'est des blagues. Non, c'est pas des blagues. Le nom correspond à la réalité. Au départ, on a nommé... C'est ce qu'Adam a fait, quand Dieu a fait passer tous les êtres devant Adam, voilà, donne le nom à chaque chose, et ça montre la science, l'intelligence qu'avait Adam. Il comprenait quelle était la nature des choses. Il voyait passer une grosse bête, il dit ça, c'est un lion. Ouais, une petite bête, ça c'est une puce. Bon, ça, c'est... Il comprenait l'intelligence même qui peut de tout leur de créer, et il pouvait donner à chaque être comme ça un nom. Un nom qui révélait la nature de la chose, oui. Et ça, il y a un lien normalement très très profond entre le nom et la réalité et la chose. Et donc les anges, eh bien, leur nature, leur rôle, est tout simplement désigné par leur nom. Et alors le nom de domination, par exemple, eh bien, le nom de domination n'inclut pas, nous dit saint Thomas, une exécution. Voyez, dominer proprement, ça ne veut pas dire exécuter, ça ne veut pas dire faire quelque chose, oui. Mais cela désigne simplement une disposition prise ou un ordre donné en vue d'une exécution. Celui qui domine, c'est lui qui donne des ordres, oui. Celui qui a l'autorité et qui donne des ordres, celui-là il domine. Oui. Donc, oui, les dominations n'exercent pas par elles-mêmes, ces anges-là n'exercent pas par eux-mêmes un ministère, mais ce sont eux qui déterminent et qui envoient les anges inférieurs en ministère, oui. Alors qu'au contraire, les noms des ordres d'anges inférieurs, dans les noms des ordres d'anges inférieurs, se trouvent signifier une certaine exécution. Alors ça peut vous paraître peut-être un petit peu arbitraire tout cela, mais non. Hein, c'est... En effet, par exemple, ange et archange indiquent une annonce. Angelos, hein, c'est l'envoyé, c'est celui qui annonce quelque chose. Hein. Angelos, du grec. Bon, vous voyez, l'ange, c'est l'envoyé, c'est celui qui annonce. Et donc les anges vont être chargés d'annoncer quelque chose. Les archanges, eux, on va leur réserver une annonce plus importante. Et les anges, c'est les petites nouvelles, bon, pourquoi, bon, tout ça, bon, etc. Alors que les archanges, c'est une nouvelle importante. Par exemple, eh bien, c'est un archange qui est envoyé auprès de Notre-Dame pour lui annoncer qu'elle sera mère de Dieu. C'est quand même un message important. Donc là, c'est un archange qui fait ça. Hein, bon. Tandis que les vertus, par exemple, ou les puissances, marquent un rapport avec une action, une vertu. Vertu ou puissance, c'est presque un peu le même mot. Hein. Vertu, une puissance, ça, c'est vraiment, ça manifeste une certaine exécution. Et donc, il est clair, ce sont eux qui vont agir, exécuter véritablement des actions. Hein. Et donc, c'est que l'envoi pour un ministère extérieur appartient à ces cinq ordres, mais non aux quatre ordres supérieurs. Donc les quatre supérieurs, c'est-à-dire séraphin, chérubin, trône, eux ils assistent. Les dominations, eux ils gouvernent un peu les ministères, et ce sont les cinq ordres inférieurs qui exécutent véritablement ces ministères, et qui donc sont véritablement et proprement envoyés. Vous voyez, c'est intéressant, je pense, tout cela. Alors, vous voyez, ces anges qui viennent un petit peu nous accompagner, qui nous guident, nos anges gardiens. Eh bien, alors, à vous de chercher un petit peu à savoir à quel ordre appartient votre ange gardien, ça je ne sais pas, mais demandez-lui, peut-être qu'il vous le dira. Est-ce une vertu, une puissance, une principauté, un archange, un ange? Je ne sais pas. Voilà un petit peu donc, rapidement, ce qui concerne ces missions des anges, vous voyez tous les anges, donc, quels sont les anges qui sont envoyés? Et c'est très beau hein, de penser, effectivement, nous en parlons la dernière fois, hein, ce texte de ce père... ce père dominicain là, hein, qui nous parlait de ces anges là, hein, qui forment la cour céleste, hein, qui sont les aristocrates de Dieu et qui acceptent de venir traîner les pieds dans notre boue. Hein. Et c'est quand même pas rien, penser que j'ai là, au côté, à mes côtés, un esprit qui voit Dieu. Et voilà, il faut y penser, il faut s'en occuper, il ne faut pas le laisser tout seul. Il faut lui demander des renseignements, dire comment ça se passe là-haut, dites-moi un peu. Quoi. C'est intéressant, il en sait des choses. Hein. Il en sait beaucoup plus que nous, il connaît toutes les réponses. Hein. Et vous séchez sur un problème de mathématiques, et bien demandez-lui la solution. Il la connaît, mais mathématiques, sauf pour croire que... Je ne crois pas que ça intéresse beaucoup les anges, mais enfin en latin, par exemple, ça c'est très fort, c'est pas un problème. Mais c'est vrai. Bon, je sais, on peut en rire un petit peu, mais c'est vrai, toutes les connaissances que nous n'avons pas, toutes les réponses aux questions que nous posons, mais eux, ils les connaissent, ils les voient en Dieu. Et Dieu peut leur permettre, bien sûr, tout est soumis à la permission de Dieu, c'est évident. Hein. Dieu peut leur permettre de nous donner les réponses aux questions que nous posons. Il ne faut pas hésiter, il faut vraiment avoir recours à l'ange gardien, il faut avoir la foi. Il faut y croire à ces anges gardiens. Eh oui, bon, alors quelles sont un petit peu les missions justement de ces anges? Où est-ce que nous allons trouver des anges? Donc nous avons parlé un peu du monde matériel, les anges qui peuvent, bien sûr, donc pratiquement les anges peuvent faire ce qu'ils veulent, hein, c'est extraordinaire avec le monde matériel. Hein. Les anges, si vous voulez, pourraient jouer à la pétanque avec les planètes. Hein. Mais vraiment, en avant, la Terre à droite, la Lune à gauche, hop. Mais c'est pour eux, il n'y aura aucun problème. Bon, maintenant, il y a le bon Dieu qui est là, qui a dit, écoutez, les enfants, ne mettez pas la pagaille dans la création, mais en soi, il pourrait très bien le faire, si Dieu le voulait un jour, comme ça, qu'il s'amuse avec ça. Et bon, Dieu est raisonnable quand même, heureusement. Mais vraiment, cette puissance des anges, hein, c'est extraordinaire, tout ce qu'ils pourraient faire, si Dieu le permettait. Hein. Bien, il y a cela, mais ensuite, alors, c'est peut-être un peu plus intéressant, justement, c'est cette mission des anges auprès des êtres humains. Alors, C'est très intéressant tout cela, je pense, moi je trouve en tout cas. Vous voyez, cette présence des anges auprès de toutes les catégories d'êtres humains, auprès des peuples même. Vous voyez, les peuples, les races, les nations. Un peuple a un ange gardien. Un pays a un ange gardien. Une nation a un ange. Une race a un ange gardien. C'est pourquoi je dirais être raciste en soi, c'est pas un péché. De toute façon, il y a plusieurs façons d'être raciste, c'est évident, mais... Considérer qu'il a des différentes races, et puis je dirais, ma foi, voilà, constater les différences qu'il y a entre les peuples et les races, enfin, ce n'est pas être raciste, moi, que les Noirs ont un ange gardien, les Jaunes ont un ange gardien, donc à ce titre-là, il est évident que je ne peux pas les mépriser, c'est évident, puisque Dieu les aime, et Dieu les a confiés même plutôt à un ange gardien. Et quel est justement un petit peu le rôle, un petit peu, l'Écriture sainte nous parle de cela, de ce rôle des anges auprès des peuples. Le livre du Deutéronome, par exemple, nous dit « Lorsque Dieu adjugea aux nations leur héritage, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des anges de Dieu. » C'est dans la Révélation. Hein? Donc Dieu fixa les limites des peuples d'après le nombre des anges de Dieu. Le livre de Daniel lui-même nous parle des anges de la Grèce et de la Perse. Les anges de la Grèce et de la Perse. Clément d'Alexandrie, qu'est-ce qu'il nous dit, lui, ce bon Saint Clément d'Alexandrie? Les présidences des anges ont été distribuées selon les nations et les villes. Oui, les nations et les villes. Une ville a un ange gardien. Et ailleurs, il dit encore, les anges ont été distribués entre les nations selon une ordonnance antique et divine. Et un peuple a un ange gardien. Une ville a un ange gardien. Ride a un ange gardien. Saxon a un ange gardien. Écône a un ange gardien. Oui, mais c'est clair, ça, et c'est normal. Oui. Et pourquoi? Quel est le rôle de ces anges, voyez, auprès de ces peuples ou de ces portions, disons, d'humanité, voyez? Bien, c'est une mission d'abord de protection et d'assistance temporelle, bien sûr, les aider un petit peu dans leurs besoins temporels, ça, c'est clair. Voyez. Mais surtout, et c'est cela le plus important, leur mission est d'abord spirituelle. Mission spirituelle, quel est le rôle de ces anges auprès de ces peuples? Eh bien, c'est de les conduire à la vérité, de les conduire à notre Seigneur, de les conduire au salut. Et c'est pas évident. Et les peuples ont besoin d'y être aidés. Il y a un ange, donc, qui est affecté, si l'on peut dire, à la garde de chaque peuple pour les conduire au salut. Voici ce que dit toujours Denis l'Aréopagite. Hein. Les anges chargés du soin sacré de chaque nation... élevèrent tous ceux qui voulurent bien le suivre vers l'unique principe universel. L'unique principe universel, c'est Dieu. Voilà. Eh bien, les peuples qui veulent bien, voyez, être dociles à la conduite de leur ange gardien, eh bien ces peuples-là accéderont à la vérité, à la connaissance de Jésus-Christ, à la connaissance de Dieu. Oui. Et c'est là le rôle des anges gardiens des peuples, eh bien, c'est de conduire ces peuples païens à Dieu. Conduire les peuples à Dieu, tous. Tous. Bon, garder, bien sûr, ceux qui y sont déjà, ceux qui sont chrétiens, et ceux qui ne sont pas, les conduire à Dieu, les conduire à Jésus-Christ. Oui. Et c'est une, je pense, une notion importante, et que l'Église, une vision que l'Église avait autrefois. Bon, j'espère qu'elle l'a toujours, mais enfin, et dans les missions, quand on envoie des missionnaires dans tel ou tel pays, eh bien, ma foi, si vous voulez, on s'adresse un petit peu à l'ange gardien de ce pays dans lequel on est envoyé. Voilà, cet ange de Dieu qui, à qui ce peuple est confié, ces pauvres infidèles, etc. Eh bien, voilà, aidez-moi à accomplir mon ministère pour les conduire à Dieu. Et l'ange, bien sûr, il pousse. C'est normal, ça. Hein. C'est son rôle, il est là pour ça. Il est là pour ça. C'est, je pense que c'est une chose qu'il ne faut pas négliger, cela, vous voyez, chaque peuple, chaque portion, disons, d'humanité. Vous savez, prenez donc une race, mettons, ensuite prenez un peuple, une nation, prenez même une région, le Valais, un ange gardien, certainement. Vous voyez, si on prend, les Suisses ont un ange gardien, les Valaisans ont un deuxième ange gardien, ça fait du monde, tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a après? Ben après, vous prenez chaque district, il y a des districts encore, attention, dans le Valais, donc chaque district, c'est vrai, a son ange gardien, et puis ensuite, ben, la commune a son ange gardien. Et dans la commune, eh bien, la paroisse a son ange gardien, c'est évident, ça a plus fort 13 ans, et chaque famille a son ange gardien. Regardez un petit peu tous ces anges qui s'occupent de vous. Ben, quand on arrive au bout de la chaîne, ben, dis non, bon, il y en a du monde autour de nous, mais c'est bien, c'est beau, ouais. Et donc chaque peuple a son ange gardien, et chaque diocèse, ça aussi, c'est une chose, chaque diocèse, il faudrait parler aussi des ce qu'on appelle les églises particulières, hein, chaque diocèse a son ange gardien. Cette doctrine est fondée dans l'Apocalypse, hein, si vous connaissez l'Apocalypse, au début, là, les sept anges, vous voyez, des sept églises, les anges des sept églises d'Asie mineure, vous voyez, chaque église d'Asie mineure avait son ange gardien, et chaque diocèse a son ange gardien. Ce que dit Origène, par exemple, on peut dire, en suivant l'Écriture, qu'il y a deux évêques par Église, l'un visible et l'autre invisible, qui participent à la même tâche. Il y en a un qui a la crosse et la mitre, et l'autre qui n'a rien du tout, mais qui est bien là quand même. Oui. Voilà, deux évêques, invisibles et un invisible. Et c'est tout à fait conforme, de même que l'Église. L'Église, mais ma foi, il y a notre Seigneur qui est le chef invisible, et puis il y a le pape qui est le chef visible. Donc un chef invisible et un chef visible qui est son vicaire, et bien également dans chaque diocèse, il y a un chef invisible qui est un ange, et puis il y a le chef visible qui est l'évêque du diocèse. Saint Grégoire de Nazianze, vous voyez, qui dit des belles choses aussi. Le soin de cette église a été confié à un ange, dit-il, c'est clair, hein. Et d'autres président à d'autres églises, comme Saint Jean l'enseigne dans l'Apocalypse. Et quand Saint Grégoire a dû quitter son diocèse, quand il a quitté Nazianze, donc pour quitter son diocèse, oui, bien à ce moment-là, il s'est tourné vers son ange, c'est l'ange de son diocèse, et il a prié de faire qu'il n'y ait pas d'obstacle qui empêche le chemin de son peuple vers la Jérusalem céleste. Oui, donc, puisqu'il quittait son diocèse, bien, il quittait l'ange gardien du diocèse. Alors, il a fait une petite prière avant de le quitter, voilà, saint ange du diocèse de Nazianze, et bien voilà, occupez-vous de ce peuple que je quitte, moi, pour le conduire jusque vers la Jérusalem céleste. Très beau tout cela. Les anges sont présents donc auprès des peuples, auprès des diocèses, c'est clair cela, et même un endroit où ils sont tous spécialement présents, bien sûr, hein, ça, et la chose serait anormale sinon, eh bien c'est à la célébration du Saint-Sacrifice de la Messe. Alors là, si nous pouvions voir, hein, les foules d'anges qui accourent, hein, chaque fois qu'un prêtre monte à l'autel, très beau, hein. Et oui, les anges sont présents à l'autel du sacrifice. Saint Jean Chrysostome, oui, nous dit que lorsque le prêtre s'avance vers l'autel pour offrir à Dieu le sacrifice, des anges entourent le prêtre. Tout le sanctuaire et l'espace qui environne l'autel sont pleins d'armées célestes en l'honneur de celui qui se trouve sur l'autel. Eh oui, est-ce que c'est le même Dieu qui est au ciel et qui est là sur l'autel? Eh bien, il y a tous les anges qui forment sa cour. Mais ma foi, ils sont là aussi, ils ne vont pas le quitter, surtout pas. C'est un petit peu, je dirais, comme quand le roi se déplace, si on peut parler de déplacement, mais il est évident que toute sa cour se déplace avec lui. rendez compte un peu le monde qu'il y a dans nos chapelles quand un prêtre célèbre la messe. Heureusement, ils ne prennent pas beaucoup de place, là, ça va, mais c'est extraordinaire. Si nous avions la foi, si nous pouvions voir un peu, au moins réaliser la présence de ces millions d'anges qu'il y a là, et qui adorent notre Seigneur dans l'Eucharistie, et qui ne quittent pas le tabernacle, aller à la chapelle, là où Dieu est présent, là où notre Seigneur est présent, là où l'Eucharistie est présente, eh bien, il y a des anges qui sont là, qui l'adorent. Ouais. Même si nous ne sommes pas là, eux, ils l'adorent. Et bien sûr, surtout au moment de la célébration de la messe. Tout autour de l'autel, s'inclinant vers la terre, comme on voit les soldats se tenir en présence du roi, ainsi se tiennent les anges. Toujours Saint Jean Chrysostome. Saint Ambroise nous dit encore que on ne peut pas douter qu'un ange soit présent lorsque le Christ est présent, lorsque le Christ est immolé. Saint Grégoire le Grand encore, ouais. Ils avaient la foi, ces pères de l'Église, quand même, c'était quelque chose. Hein. Quel fidèle, en effet, dit-il, pourrait douter qu'à l'heure même de l'immolation, les cieux s'ouvrent à la voix du prêtre, que dans ce mystère de Jésus-Christ, les cœurs des anges soient là, que les êtres supérieurs partagent avec nous leurs prérogatives, que les êtres terrestres soient unis aux êtres célestes et que le visible ne fasse plus qu'un avec l'invisible. C'est beau tout cela. Un autre encore qui dit cela. Ne sais-tu pas qu'à l'instant où le Saint-Sacrement vient sur l'autel, le ciel là-haut s'ouvre? Bon, c'est des façons de parler tout cela, bien sûr. Hein. Comprenez bien que le ciel ne s'ouvre pas. Il n'y a pas une porte à l'entrée du ciel. Hein. Bon. Donc ne sais-tu pas qu'à l'instant où le Saint-Sacrement vient sur l'autel, le ciel là-haut s'ouvre, le Christ descend et arrive, que des légions angéliques volent du ciel sur la terre et environnent l'autel, où est le Saint-Sacrement du Seigneur, et tous sont remplis de l'Esprit-Saint. Tous sont remplis de l'Esprit-Saint. Et c'est beau tout cela. Et c'est cela la liturgie, ouais, la liturgie de l'Église, hein, la sainte liturgie de l'Église. Il faut vraiment la comprendre dans cette... dans cet esprit-là, dans cette optique-là. Et la liturgie de l'Église, celle qui se déroule donc dans nos chapelles, dans nos églises, etc., c'est une infime partie de la grande liturgie. La grande liturgie céleste. Hein. Liturgie céleste. Hein. Cette liturgie, justement, d'adoration, dans laquelle eh bien, les neuf chœurs des anges chantent la gloire de Dieu, eh bien, l'Église s'insère un petit peu. Ouais. Elle prend sa place au cœur de cette louange. Voyez. Et c'est cela, la liturgie de l'Église. Alors bien sûr, comme nous sommes des pauvres êtres humains, il faut bien quelques règles pour que les choses se déroulent dans l'ordre, vous voyez, que ce ne soit pas un petit peu trop le désordre, ce qui est une façon justement de refléter la beauté. Quand les choses sont dans l'ordre, quand c'est l'harmonie, etc., vous voyez, bien les choses sont belles, et à ce moment-là, bien c'est une façon d'honorer, de chanter, de louer Dieu. Hein. Et saint Augustin, vous voyez, c'est des pensées un petit peu qui sont très belles, aussi de cette liturgie de l'Église. Hein. Cette liturgie qui intègre l'homme racheté en qualité de dixième ordre aux neuf ordres d'anges. Ouais, comme si l'humanité rachetée est bien formée comme un dixième cœur d'anges. Les neuf cœurs d'anges, et puis un dixième, c'est nous, c'est l'Église. Ouais. La liturgie d'Église, eh bien, voilà, s'ordonne un petit peu en continuité avec la liturgie du ciel. L'Église qui est encore itinérante, dit saint Augustin, est unie à cette Église céleste où les anges sont nos concitoyens. Eh oui, les anges sont nos concitoyens. Ouais, le ciel est notre patrie. Nous sommes citoyens du ciel, les anges aussi. Et nous sommes concitoyens avec eux. Et dans la liturgie, eh bien, nous unissons nos âmes, nos cœurs, eh bien, à la prière, à la louange des anges. Très beau tout cela, ouais. Vous voyez, donc cette présence des anges auprès des peuples, auprès des diocèses, dans la liturgie, auprès de l'autel. Et puis bien sûr, il y a cette proximité, alors cette fois plus particulière pour chacun d'entre nous, ce qu'on appelle alors, proprement cette fois les anges gardiens, il faut quand même y venir, hein, c'est ce qu'on appelle l'ange gardien, c'est-à-dire cet ange qui nous est affecté. Hein. Et ça, c'est une chose qui est certaine, ce n'est pas deux fois, encore une fois, bon. C'est pas deux fois, mais vraiment, ce serait, je crois, très téméraire hein, de douter hein, de la réalité de l'ange gardien. C'est fondé même dans l'Écriture, les psaumes, hein, vous connaissez peut-être ce psaume, il a donné ordre à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Nous chantons cela au compli du dimanche, hein, tous les dimanches soirs, Angelis suis mandavit dete, ut custodiant te in omnibus viis tuis. Dieu a commandé à ses anges, à ton sujet, afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. C'est dans l'Écriture. Donc comment pouvons-nous douter qu'effectivement Dieu commande à un ange eh bien, de nous accompagner dans toutes nos voies? Non, il y a des anges qui gardent les hommes. Cela est une évidence parce que c'est un besoin des hommes. C'est un besoin, bon sans doute. Nous avons l'intelligence, nous avons la volonté, nous avons la prudence, tout un tas de vertus. Mais nous savons bien que nous sommes faibles, nous savons bien que nous sommes faillibles. Et que même si nous avons toute la connaissance du fait de la loi naturelle, la connaissance de ce qu'il faut faire, nous connaissons tous les préceptes divins, etc. Bon, c'est très bien tout cela, mais nous savons bien que quand il faut passer à l'action, ben, on n'a pas toujours envie. Hein. Bon, pas toujours facile, etc. Et c'est là bien qu'il nous est bon d'avoir un ange qui lui connaît tout, a toute la science du bien et du mal, et qui peut justement, nous suggérer, nous incliner, nous aider eh bien, à faire le bon choix et à agir comme il faut. Hein. Alors bien sûr, nous pouvons repousser hein, les impulsions des anges, oui, ce qui fait eh bien, que si jamais nous perdons, si jamais nous allons en enfer, eh bien, ce ne sera pas la faute de notre ange gardien, c'est évident, mais parce qu'il y a toujours cette liberté. Hein. Nous pouvons refuser les inspirations des anges, nous pouvons refuser de suivre ces suggestions, ça c'est clair, ça, malheureusement. Hein. Mais heureusement, nous avons des anges auprès de nous qui agissent d'une façon insensible, et nous ne le savons pas. Et ils sont discrets, ils sont humbles, les anges, hein, plus que nous. Quand ils nous donnent un conseil, quand ils nous donnent lumière, ben, nous ne savons pas que ça vient d'eux. Et pourtant, c'est d'eux que ça vient. Oh, une bonne idée. D'où elle est venue? C'est l'ange. C'est pas moi. Comment voulez-vous que j'ai une bonne idée? Moi, je suis tellement bête, etc. Ouais. Mais c'est l'ange. Mais c'est vrai. On est tous là. Moi, je suis un type doué, moi. C'est mon ange que doué, oui, alors là, ça c'est sûr, ça. Eh oui, mais c'est clair, ça. Essayez, mais si chaque fois que nous avons comme ça, je dirais, un bon mouvement, une bonne pensée, une bonne idée, si à chaque fois nous pensions à dire merci à notre ange gardien, je sais, ça changerait toute notre vie. Parce que ça vient de lui. Faut pas se raconter d'histoire. Hein. Ça ne vient pas de nous, ça vient de lui. Eh oui. Et oui, et ça, c'est une évidence, et ce sont des preuves manifestes, constamment, comme ça, mais de cette présence, de cette action des anges, nous avons vraiment au moins un ange gardien, peut-être plus même, ça, c'est peut-être pas défendu pour certains d'en avoir plusieurs, hein, mais au moins un, ça, c'est sûr. Hein. Et chaque homme a un ange particulier. Hein, chaque homme a un ange particulier. On pourrait s'imaginer, certains l'ont imaginé, qu'il y avait un ange, bon, qui s'occupait de diriger tout ça, puis c'est vrai que les anges sont tellement puissants que, ben, ma foi... Un ange peut très bien s'occuper de 10 bonshommes à la fois, ça c'est pas difficile, ça c'est sûr. Et non. Telle est la dignité de nos âmes, dit Saint Jérôme. Et c'est à cause de la dignité de chacune des âmes. Telle est la dignité de nos âmes que chacune d'elles a, dès le premier instant de son existence, un ange préposé à sa garde. Chacune de nos âmes a un ange préposé à sa garde. Un ange pour moi tout seul. Eh oui. Il est pour moi. Et pour personne d'autre, il s'occupe de moi et de personne d'autre. Ouais. Quand je serai mort, peut-être qu'il pourra aller voir quelqu'un d'autre, mais pour l'instant, c'est de moi qu'il s'occupe. Ouais, ouais. Un ange pour moi tout seul. Ouais. Et c'est normal quand on voit justement un petit peu le soin que la Providence prend de tout l'univers créé, de tout l'ordre créé. Et à combien plus forte raison, on dirait Dieu se doit-il, en toute sagesse, je dirais, en toute convenance, eh bien de prendre soin eh bien de ces êtres tout à fait particuliers qui sont ces êtres immortels. Et si Dieu s'occupe de l'ordre créé qui est corruptible et qui un jour eh bien, sera transformé, disparaîtra dans ce que nous voyons actuellement, et ces âmes qui, elles, sont immortelles, sont destinées à ne jamais mourir, à ne jamais périr, mais à combien plus forte raison, ouais, doit-il en prendre soin? Et il est tout à fait logique qu'il affecte un ange particulier pour veiller sur une âme toute seule. Ouais. Tout à fait normal. Ouais. Et alors, bon, je dirais, alors ça serait un petit peu hasardeux que de vouloir un peu essayer de déterminer, vous voyez, justement, quelle est la catégorie d'anges qui s'occupe de telle catégorie d'hommes. Mais il est certain, vous voyez, que plus un être humain aura une mission importante à remplir dans l'Église, dans l'humanité, et bien plus, sans doute, hein,
dirait là, l'ordre de l'ange qui lui est affecté est élevé. Et celui qui, par exemple, celui qui est destiné à devenir pape, par exemple, il est probable qu'il doit avoir au moins une vertu ou une puissance, sinon une domination, qui sait, oui, c'est normal. Alors que celui qui n'est destiné qu'à traîner sa sabbate un petit peu au fond des caniveaux, bon, je pense qu'il aura un petit ange, ça devrait lui suffire, celui-là, oui. C'est pas une question de mépris de l'être en tant que tel, mais c'est en fonction de la mission qu'il aura à remplir, oui. Mission au profit de l'humanité, au profit de son pays, au profit de l'Église, oui. En fonction de la mission, eh bien, pour qu'il puisse accomplir sa mission au profit des autres, eh bien, avec efficacité, eh bien, il aura un ange plus puissant, oui, que l'autre, oui. Mais alors là, vous savez, difficile de déterminer, nous ne savons pas grand-chose là-dessus. Alors on peut tout imaginer, mais méfions-nous encore une fois de notre imagination. Et c'est un petit peu la question que se pose saint Thomas d'Aquin, oui, par exemple, également pour les catégories d'êtres humains. Les catégories d'êtres humains, oui, bon, sans doute, oui, par exemple, on attribue, mais ça c'est des coutumes, des traditions, les puissances seraient chargées plutôt de réprimer les démons, en général. Les dominations, eux, garderaient plutôt les bons anges, oui, donc nous l'avons dit un petit peu, sont eux qui veillent sur le bon travail, la bonne exécution des ministères des bons anges, alors que les puissances s'occuperaient plutôt de réprimer les démons. Les principautés. Bon, ce serait dans les principautés qu'il faudrait prendre plutôt les anges gardiens du genre humain ou des peuples. Ouais. Bon, ça, je voulais aller savoir. C'est un petit peu... Là, encore une fois, on peut tout imaginer. Et puis, une autre pensée qui est belle, je pense, qui est importante pour nous. Comme nous le disions tout à l'heure, que tous les peuples ont un ange gardien. Tous les hommes ont un ange gardien. Ça, il ne faut pas l'oublier. Tous les hommes, baptisés ou non. Hein. Parfois, on a parfois des idées un peu floues là-dessus. Nous pensons que seuls les baptisés ont un ange gardien. Non. Non, non. Tous les hommes ont un ange gardien, baptisé ou non. Oui. Même celui qui ne sera jamais baptisé, même les infidèles qui resteront infidèles, même les persécuteurs de l'Église, même l'antéchrist a un ange gardien. Oui. Tous les hommes ont un ange gardien. Oui. Bon, il est sûr que par le baptême, bon, le baptême, nous sommes élevés à un ordre supérieur, ça c'est clair. Mais même indépendamment du baptême, nous avons une âme qui est rachetée par Dieu. Notre âme, même l'âme de l'infidèle, de celui qui ne sera jamais baptisé, cette âme, elle a été rachetée par Jésus-Christ, par le sang de sa croix. Et l'âme d'un tout petit, l'âme d'un fœtus, bien, Jésus-Christ a versé son sang pour elle. Et donc, il est normal, bien que Dieu veille sur toutes ces âmes qui sont les trésors de son Fils. Ouais. Et donc, tous les hommes ont un ange gardien pour les guider, justement, eh bien, sur le chemin de la vie, pour les conduire jusqu'au terme de leur vie. Bon, cet ange gardien les quittera au dernier jour, au moment où ils quitteront cette vie d'ici-bas. Ouais. Et à ce moment-là, justement, eh bien, je dirais, l'âme qui arrivera au paradis, eh bien, retrouvera au paradis cet ange qui l'a accompagné. Oui, puisque l'ange, tout en gardant les hommes, eh bien, reste au paradis, donc il se retrouve là-haut. Donc, tiens, c'est bien, t'as bien travaillé, mon vieux. Merci, bon, c'est bien. Et si jamais, malheureusement, l'âme va en enfer, eh bien là, elle retrouvera non plus son ange gardien, mais le démon qui l'a persécuté pendant toute sa vie. Mais je dis bien, une année, etc. Bon, voilà. Et oui, les anges gardiens, chaque homme a son ange gardien, c'est très beau, et ça il faut y penser, oui, penser, oui, c'est tous là, chacun, vous avez votre ange gardien, bon, ça va bien, il n'y a pas de problème, mais même tous les bandits qui peuplent nos rues, nos cités, nos routes, et tout ça, ils ont des anges gardiens. Vous avez un problème avec quelqu'un, je ne sais pas quoi, etc., et priez son ange gardien, ou envoyez votre ange gardien, démêlez un peu le problème avec le sien, etc., oui, voilà. Mais oui, faisons intervenir les anges gardiens, vous savez. Ils sont beaucoup plus malins, beaucoup plus habiles que nous, vous savez. Pff, heureusement. Eh oui. Adam avait un ange gardien, oui. Eh oui. Dès sa création, Adam et Ève, dès leur création, Adam et Ève avaient un ange gardien. Eh oui. Pour les défendre contre les attaques des démons. Bon, ben, il a loupé sa mission, mais enfin, pas complètement, quand même. Enfin, il a eu peut-être une distraction, je ne sais pas. Parce qui n'est pas vrai, mais enfin, voilà, le bon Dieu l'a permis simplement. Mais en tout cas, cet ange gardien n'a pas quitté Adam et Ève après leur péché. Ensuite, ils sont restés auprès d'eux bien pour les aider à se convertir, bien, à faire pénitence et à obtenir la béatitude céleste. Oui. Et oui, tous, et même je vous disais, les infidèles, même l'antéchrist, même ceux qui seront damnés, ont un ange gardien. Oui. Ça peut paraître un peu étrange, mais bon, pour tout, puisque voilà, ils ne sont destinés qu'à faire le mal, etc. Pourquoi leur laisser encore un ange gardien? Eh bien, au moins pour les empêcher de faire plus de mal. C'est au moins, je dirais, le rôle des anges gardiens de ceux qui seront damnés, de ceux qui seront vraiment les persécuteurs de l'Église, de l'antéchrist. Oui. L'antéchrist lui-même est soumis à la puissance de Dieu, quand même. Attention, il ne fait pas ce qu'il veut. Satan lui-même est soumis à la puissance de Dieu. Hein. Et donc, l'antéchrist, disons, a un ange gardien. Voilà, mais pour peut-être justement mettre une limite à ses ravages, l'empêcher de faire certains actes mauvais. Hein. Cela est tout à fait normal, et qui sait, pourquoi pas. Bon, ça, tout est possible à Dieu, mais enfin, obtenir son repentir et sa conversion. Oui. Il n'y a qu'un être humain qui n'a pas eu d'ange gardien, c'est le Christ. Et le Christ. Eh oui, pensez donc. Le Christ ne pouvait pas avoir d'ange gardien. Comment voulez-vous qu'il ait... Bon, il aurait pu en avoir un, mais vraiment, ça ne lui servait à rien du tout. Hein. Puisqu'il est, si on peut dire, il est gardé par Dieu, tout simplement. Puisque le Christ est le Fils de Dieu, quand même. Ouais. Alors Dieu n'a pas besoin de l'ange gardien, quand même. Ouais. Toutes les lumières, toutes les forces dont il a besoin, il les a en lui-même. Et donc notre Seigneur n'avait pas besoin d'un ange gardien. Il n'avait pas d'ange gardien. Mais peut-être avait-il quand même, je dirais, certainement, je dirais, des millions d'anges autour de lui, non pas pour le garder, mais pour le servir, ouais, en tant que ministre, simplement pour le servir. C'est ce que nous dit l'Évangile au Saint Matthieu, après la tentation au désert, après le jeûne au désert, hein, les anges s'approchent de lui pour le servir. Ouais, les anges qui entourent Jésus-Christ sont ses ministres, mais ne sont pas ses gardiens, bien sûr. Hein. Et, bon, Saint Thomas, ça nous l'avons déjà dit, mais enfin, j'empiète toujours un petit peu, je vais trop vite, mais enfin, c'est pas grave. Hein. C'est donc dès le moment de sa naissance, hein, disions-nous, que chaque homme a cet ange gardien. Toute âme, dit Saint Jérôme, dès le premier instant de la vie, a un ange préposé à sa garde. Hein, c'est à la naissance hein, que l'ange gardien est donné à l'enfant. Avant la naissance, ce n'est pas encore nécessaire, puisqu'il est gardé par sa mère. Il est gardé par l'ange gardien de sa mère. Oui, bon, l'enfant dans le sein de sa mère fait un petit peu partie de sa mère, donc l'ange gardien suffit. Quand il garde la mère, mais il garde l'enfant. Hein. Mais c'est à la naissance où là, bien l'enfant acquiert une certaine autonomie. Il n'est plus donc intégralement gardé par sa mère. Et donc c'est à ce moment-là que l'ange gardien est donné à cet enfant pour veiller sur son corps, bien sûr, le préserver de tous les maux, toutes les misères, les maladies, autant que possible, autant que le bon Dieu le permet. Mais surtout pour veiller sur son âme, hein, ça c'est bien évident, hein, ça c'est clair. Préserver cette âme jusqu'au moment du baptême, ouais, et puis après garder, essayer de garder cette âme et bien dans l'état où elle a été mise par l'Église, par le baptême. Hein, c'est une chose merveilleuse. Là. Si nous pouvions ouais, voir un peu une âme, l'âme d'un enfant baptisé, c'est une merveille. Hein. Faudrait pouvoir voir ça. Hein. Pouvoir scruter un petit peu l'invisible, hein, voir une âme baptisée, c'est le paradis déjà. C'est le paradis, c'est le ciel, c'est déjà. Et la responsabilité, hein. Bon, faut pas en avoir peur, bien sûr, mais c'est une chose à laquelle il faut penser, des parents, des parrains, des marraines, etc. Ouais. Voilà, cette âme qui est un petit bout du ciel, une parcelle du ciel, là, c'est bien qui est confiée à ma garde, et bien... Il faut que je l'aide à rester comme ça toute sa vie. Comme ça, eh bien, quand le bon Dieu voudra la prendre, pouf, directement au ciel. Voilà. Sans intermédiaire. Ce serait beau, ça. Ouais, c'est grand, ça. Et c'est important pour le choix des parrains et marraines. Je fais une petite aparté, là. Hein. Le choix des parrains et marraines, justement, ne pas choisir un peu, je dirais, n'importe qui. Quoi, hein. C'est bien beau de faire des mondanités ou je ne sais pas quoi, copain de la copine, de la grand-mère, etc. Bon, c'est très bien. Mais surtout, est-ce que ce parrain ou cette marraine, eh bien, saura aider l'âme de mon enfant, eh bien, à rester pure, à rester sainte. Voilà ce qui est important. Le reste, beaucoup moins important, beaucoup moins. Eh oui, cet ange gardien, et qui, quoi qu'il arrive, n'abandonnera jamais. Là, c'est clair, hein, l'ange gardien ne nous abandonnera jamais. On dit parfois que les anges nous abandonnent, que Dieu nous abandonne, mais ça, c'est des façons de parler. Hein, quand on dit que Dieu nous abandonne, ou que l'ange gardien nous abandonne, hein, etc., ben, simplement pour manifester ben, que momentanément, peut-être, eh bien, il cesse un petit peu son action à notre profit, mais ben, pour nous permettre un petit peu peut-être de recevoir les conséquences de nos bêtises, de nos fautes, etc., pour que, voilà, on se reprenne un petit peu. Donc, l'ange peut parfois, momentanément, cesser ouais, de son action, mais il est évident que l'ange n'abandonne pas l'âme à laquelle il a été confié. Tout ça, mais pourquoi ? Mais pas tout simplement parce que le diable, lui, de son côté, ne nous abandonne pas. Le diable, Saint-Pierre qui dit cela, « Circuit querens quem devoret » Pouf. C'est dans les complis, tous les soirs aussi on chante ça. Le diable, votre ennemi, semblable à un lion rugissant, tourne sans cesse autour de vous pour vous dévorer comme une proie. Il est là tout le temps. Et lui, alors là, ça, lui, il ne nous abandonne pas. Il est toujours là, tourné autour de nous. Il rôde. Et bien, il y a l'ange gardien qui rôde lui aussi. Voilà. Ils sont deux à rôder. Et l'ange gardien est... L'ange gardien est plus puissant que le démon, parce que l'ange gardien se tient près de Dieu. Alors que le démon ne se tient pas près de Dieu. Donc le démon, il a sa puissance à lui, et encore elle est limitée par l'action de Dieu, ouais, la présence, la puissance de Dieu, alors que l'ange gardien, lui, il a sa puissance à lui, plus toute la puissance de Dieu. Ne vous inquiétez pas. Et oui, c'est... Et les anges ne peuvent pas nous abandonner. Ouais, c'est... Il y a parfois, bon, ça c'est une chose un petit peu étrange, ouais, même des luttes entre les anges gardiens. C'est amusant, c'est une question un petit peu amusante là, que se pose saint Thomas d'Aquin. Est-ce qu'il peut y avoir une lutte entre les anges gardiens? Les anges gardiens qui se bagarrent, et pouf, ça paraît un petit peu bizarre, mais effectivement, dans le prophète Daniel met cela dans la bouche de l'ange Gabriel. Le prince du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Et ce prince du royaume des Perses, eh bien, c'était l'ange auquel était confiée la garde du royaume des Perses. Donc, oui, l'ange gardien des Perses a résisté à l'ange Gabriel pendant 21 jours. Curieux, ça, quand même, c'est quelque chose qui ne va pas très bien. Hein. Bagarre un petit peu chez les anges. Bien, ça s'explique très simplement, c'est par rapport à la proximité, justement, que les anges ont avec Dieu. Ouais. Un ange qui est plus proche de Dieu sait des choses qu'un autre ange ne sait pas. Alors, celui qui ne sait pas tout, ben, peut parfois ben, pas très bien comprendre un petit peu ce que veut l'autre ange. Il dit, mais oh, qu'est-ce que tu veux, toi, là-haut, je sais pas quoi. Bon, jusqu'au... Alors ça, c'est permis par le bon Dieu, moi. C'est pourquoi, on sait pas trop, faut pas... Jusqu'au moment où le bon Dieu va permettre, peut-être, à cet ange, eh bien, de transmettre à l'ange inférieur, eh bien, la science qui lui manquait. Et à ce moment-là, c'est fini, il n'y a plus de bagarre, c'est évident, oui. Et l'ange, il agit en fonction de ce qu'il sait, de ce qu'il connaît, de la volonté de Dieu, oui. Et c'est à ce moment-là que peut-être un ange qui sait quelque chose que ne sait pas l'autre ange, eh bien, peut rentrer peut-être, momentanément, au moins en conflit, hein, avec un autre ange. Ouais. Mais dès que l'autre ange, eh bien, se tourne vers le bon Dieu pour demander, mais dis donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, à ce moment-là, c'est fini. Hein, tout se règle. Ouais. Bon, c'est une question un peu... mais qui n'est pas fausse. Hein, c'est... Ça peut arriver, ça. Qui sait? Bon, enfin, j'ai cherché à faire les applications vous-même, vous verrez. Alors, quel est le rôle de cet ange gardien que nous avons, chacun d'entre nous, auprès de nous? Eh bien, d'abord, c'est de nous garder, de nous protéger, bien sûr, contre les démons. Hein. Ce démon qui circuit, querens quem devoret, etc. Eh bien, qui tourne tout le temps autour de nous. Eh bien, l'ange gardien, peut-être sa première mission, justement, c'est de nous protéger contre lui, d'essayer de nous maintenir à l'abri de ses tentations, ses suggestions, etc. Hein, il faut peut-être un peu, à ce sujet-là, je dirais, se méfier un peu de cette sorte d'imagerie un peu enfantine, qui n'est pas fondée en tout cas, hein, qui n'est pas fondée dans la tradition ni dans l'enseignement de l'Église, à savoir que chaque être humain aurait un ange gardien, un bon ange et un mauvais ange. Non. Ben non, c'est pas vrai ça. Chaque être humain a un bon ange, ça c'est vrai. Des mauvais anges, il y en a tant qu'on veut. Mais nous n'avons pas, chacun d'entre nous, à notre droite un bon ange et à notre gauche un mauvais ange. Non, non. Dieu n'affecte pas un mauvais ange à chaque être humain. Ce serait terrible, ça. Ouais. C'est pas pensable. Il y a des démons, bon, qui infectent l'univers. Ça. Il y a peut-être 10 à ma gauche, d'ailleurs, j'en sais rien. Hein. Bon, pour un à ma droite, ça, je ne sais pas. Mais il n'y a pas comme ça un démon qui soit affecté proprement à chaque être humain. Nous avons un ange gardien qui nous protège contre tous les démons qui peuvent se présenter dans notre vie. Ça, c'est le premier rôle des anges, de l'ange gardien. Ensuite, il nous illumine, ce dont nous parlions tout à l'heure, vous voyez, ces illuminations, ces pensées qui nous viennent, etc. Et comment l'ange nous illumine, puisque nous disions la dernière fois que l'ange ne peut pas agir sur notre intelligence, hein, ne peut pas pénétrer dans notre âme. Donc l'intelligence et la volonté échappent à l'action des anges. Mais l'ange peut agir sur ce que l'on peut appeler la périphérie de l'âme, hein, ce qu'on appelle donc ces facultés plus extérieures. C'est tout le monde des passions, des sentiments, l'imagination, la mémoire, la sensibilité. Alors là, l'ange peut agir là-dessus. Oui. Tout ce qui est en rapport avec le monde extérieur, l'imagination, la mémoire, la sensibilité, les passions, tout ça sont des réactions par rapport au monde extérieur. Alors là, l'ange et le démon peut agir là-dessus. Mais il ne peut pas pénétrer dans l'âme elle-même. Ce qui est l'intelligence et la volonté, ben, il ne peut pas rentrer. Ça, c'est la demeure de Dieu. Heureusement, oui. Mais il peut agir donc sur notre imagination, notre mémoire, et c'est ainsi, bien que parfois, bien, il nous fait surgir un petit peu dans l'esprit, justement, des idées, des bonnes pensées, etc., en agissant sur notre sensibilité, sur nos passions, sur notre imagination, oui, ça, aucun problème. Nous le disions la dernière fois, les rêves même, rappelez-vous, ces rêves de Saint-Joseph, oui, c'est dans des rêves, des songes, que Saint-Joseph, eh bien, a reçu les messages de l'ange, vous voyez, mais ça, le rêve, vous voyez, ce n'est pas quelque chose de proprement intellectuel, c'est quelque chose qui se tient plutôt dans l'imagination, vous voyez. Eh bien, c'est là que l'ange, parfois, eh bien, va nous présenter une idée dans l'imagination. À ce moment-là, mon intelligence considère cela, et ok, ça marche, vous voyez. Et ça, pour l'ange, là, vraiment, pour lui, ce n'est pas difficile, cela. Donc, toutes ces représentations, ces imaginations, ces suggestions qu'il fait surgir de notre imagination, par notre sensibilité, etc. Hein. L'ange également, bon, donc non seulement il nous défend, non seulement il nous illumine, mais encore il nous aide, même parfois, des aides véritables, des actions véritables, des aides donc extérieures. Hein. L'ange nous rend des services, bon, des choses qui arrivent par l'action des anges, bon, des rencontres, par exemple, qui l'arrangent. Ah, nous, on appelle ça, c'est un hasard. Tiens, j'ai rencontré monsieur, ah, c'est monsieur truc. Oh, mon Dieu, quel hasard. Mais c'est pas un hasard. D'abord, le hasard n'existe pas. Il faudra un jour qu'on nous libère de ce machin-là. C'est un mot qui est absurde. Je ne peux rien dire. Le hasard, ça n'existe pas. Le hasard, tout est soumis à Dieu. Tout est réglé par la Providence. Tout est réglé par le ministère des anges. Et vous rencontrez quelqu'un, c'est un ange qui vous l'a fait rencontrer. Alors d'abord, remerciez le bon ange, puis après, dites bonjour, monsieur machin. Voilà. Mais oui, ça n'est pas un hasard. Bon, pourquoi? Ben ça, vous le verrez après, quelle était la raison de cette rencontre, mais ça n'est pas un hasard, c'est pas fortuit, ça. Tout ça, c'est tout ça est calculé, voulu, permis par Dieu, moi. Même les accidents de voiture, bon, ben voilà, c'est pas un hasard, c'est que vous voulez, c'est... Bon, alors pourquoi ça, c'est... Vous débrouillerez avec le bon Dieu, mais... Voilà, tout ça, c'est l'action des anges. Ouais. Parfois, c'est pour nous donner des avertissements, ou je ne sais quoi. Hein. Des rencontres, donc, que l'ange peut arranger, oui. Ou bien même des mauvais pas dont l'ange peut nous tirer. Il peut nous empêcher de je sais pas quoi, nous éviter des chutes, des accidents, ou je ne sais quoi. Oui. Ça, je dirais, là, il y aurait une foule d'histoires à raconter, l'histoire de l'Église, je dirais, pullule d'histoires, où véritablement, il y a eu des interventions angéliques. Je ne sais plus qui c'était, comme ça, quelqu'un qui s'était endormi au volant et qui s'est réveillé 15 km plus loin, intact. C'est son ange gardien qui a pris le volant. Bon, c'est pas une raison pour s'endormir au volant, attention. Hein. Il n'est pas dit que l'ange gardien le fera à tous les coups, mais des phénomènes comme ça, inexplicables. Humainement, c'est pas explicable. Eh bien, c'est son ange gardien qui a pris le volant, qui a dirigé sa voiture, etc., puis qui l'a amené à bon port. Et le bonhomme, il s'est réveillé, il était chez lui. Bon, enfin... Et donc, de véritables services hein, qui peuvent rendre... Alors, je dirais là... On peut tout supposer, ils peuvent tout faire. Hein. Et un autre service que nous rendent nos anges gardiens, qui peut être comme plus important au-delà de cette garde contre les démons, l'illumination, les aides, eh bien, c'est d'offrir nos prières à Dieu. Et on le dit également dans le livre de Tobie, que Raphaël présentait à Dieu les prières de Tobie. Ouais, un rôle donc d'intercesseur. Ils se font un peu nos relais entre ben, la médiocrité de nos prières et puis la sainteté, la majesté de Dieu que nous voudrions prier mieux, mais nous avons bien du mal à améliorer notre prière. Et bien à ce moment-là, ce sont les anges et bien, qui prennent notre prière, qui se font nos intercesseurs et qui présentent nos prières à Dieu. Bossuet, par exemple, a fait un très beau serment sur les anges gardiens et évoque justement cette difficulté. Je pense que ça vous dira quelque chose. Quelle peine d'élever à Dieu vos esprits. Ah, mon Dieu, ça, c'est sûr. Au milieu de quelle tempête formez-vous vos vœux? Combien de vaines imaginations, combien de pensées vagues et désordonnées, combien de soins temporels qui se jettent continuellement à la traverse pour en interrompre le cours. Étant donc ainsi empêchée, croyez-vous qu'elle puisse s'élever au ciel? Et que cette prière faible et languissante, qui parmi tant d'embarras qui l'arrête à peine a pu sortir de vos cœurs et la force de percer les nues et de pénétrer jusqu'au haut des cieux. Ouais, pauvres prières qui ont du mal à sortir de notre cœur, comment voulez-vous qu'elles montent au ciel? Eh bien, c'est l'ange qui la prend en charge et qui la fait monter vers le cœur de Dieu. Alors, eh bien, l'ange prête à ses faibles prières ses ailes pour les élever, sa force pour les soutenir et sa ferveur pour les animer. C'est beau ça. Quand notre ange gardien voit qu'on a du mal à prier, eh bien, il intervient. Il met à notre service eh bien, tout ce qu'il a de force, de ferveur et de puissance hein, pour que notre prière puisse monter vers Dieu. Et en faisant tout cela, encore une fois, s'il ne faut pas le perdre de vue, eh bien, notre ange ne quitte jamais le ciel pour venir s'occuper de nous. Son ministère ne l'empêche pas de voir Dieu, et même, vous voyez, tout un ensemble de spirituels qui nous propose cette très très belle pensée. Et dans la Sainte Écriture, notre Seigneur parle de ces anges, ne pas scandaliser les petits enfants, vous voyez, dont les anges contemplent toujours la face de Dieu. Hein, faire attention, ce petit enfant, son ange voit la face de Dieu. Eh bien, tout un courant donc de pensée, de spirituel, qui nous dit justement que ce ciel où notre ange contemple la face du Père, eh bien, c'est notre âme. C'est notre âme. Eh oui, c'est notre âme dans laquelle habite la Sainte Trinité. Et notre âme est habitée par la Sainte Trinité. Et donc, ce ciel où notre ange voit le Père, eh bien, finalement, c'est notre âme. Donc, vous voyez qu'en s'occupant de nous, ben, notre ange gardien ne peut pas quitter Dieu, puisque Dieu est dans notre âme. C'est magnifique tout cela. Et bien sûr, il y a encore ce dernier moment, c'est celui de notre mort, eh bien, où l'ange gardien, où les anges, eh bien, au contraire, peut-être accourent avec plus d'empressement encore, hein, l'assistance des anges au moment de la mort. Et l'Église est très, 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 très sage, très bonne. Je demande de nourrir un peu sa liturgie des défunts, qui est magnifique. Cette liturgie des défunts est une merveille. C'est peut-être la plus belle liturgie de l'Église. La messe de Requiem, c'est une splendeur. Ah, si on pouvait la chanter tous les jours, ça serait merveilleux. Bon, enfin, voilà. Et c'est vrai qu'elle est très belle, mais elle n'est pas triste. Bon, je pense que vous-même tous, hein, vous l'avez un petit peu expérimenté. Elle n'est pas triste. Cette messe des défunts n'est pas triste. On ressort d'une messe de Requiem avec l'âme très apaisée, pleine d'espérance, pleine de confiance. Ouais, c'est vrai. Que ce soit les paroles, que ce soit les mélodies, que ce soit tout, quoi. Et tout est très beau, très apaisant, très encourageant, au contraire. C'est... Et vous avez, par exemple, dans la liturgie des défunts, et quand on introduit le corps dans l'église, donc là... On va chercher normalement le corps à son domicile et ensuite on le conduit jusqu'à l'église puisqu'il ne peut plus y venir tout seul. Eh bien, c'est l'église, c'est très beau aussi cela, hein, qui va chercher le corps de son enfant là à son domicile et qui le conduit une dernière fois jusqu'à l'église. Hein. Ce chemin que cette personne faisait toute seule autrefois, ben maintenant c'est l'église qui le lui fait faire. Et au moment où le corps du défunt rentre dans l'église, cette très belle antienne, là, qui est chantée, ce Sub Venite Sancti Dei, Occurrite Angeli Domini. C'est magnifique, oui. Venez, Saint de Dieu, accourez, ange du Seigneur. Prenez son âme et présentez-la devant la face du Très-Haut. que le Christ qui vous a appelé vous reçoive et que les anges vous conduisent dans le sein d'Abraham. C'est très beau. Cet appel aux anges pour venir prendre cette âme, la baptiser, racheter par le sang du Christ, et puis la conduire, l'introduire dans la gloire de Dieu, si ça n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, bien tant mieux, c'est bien. Mais qui sait, hein? Et cela, vous voyez, nous ramène à cet épisode, cette parabole, vous connaissez, du mauvais riche et du pauvre Lazare. Hein, le pauvre Lazare qui était porté par les anges dans le sein d'Abraham. Ce pauvre qui est mort, là, etc., à la porte du mauvais riche, et dont l'âme a été portée par les anges dans le sein d'Abraham. Vous voyez, c'est donc, vous voyez, ce rôle des anges qui est très traditionnel, hein, justement de porter les âmes des défunts dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire dans le paradis. Vous voyez. Ce que les Grecs appellent les anges psychopompes. Les psychopompes, ben, c'est du grec simplement, vous voyez. Portent les âmes, les anges qui portent les âmes et qui les introduisent dans le paradis. Et c'est une pensée qui peut nous rassurer un petit peu, ben, de savoir ben, qu'un des rôles de notre ange gardien, justement, bien, c'est d'être notre psychopompe. Et oui, voilà, qui l'introduise notre âme au paradis au dernier jour, quand ce sera le moment, oui. Et dans la messe des défunts, hein, aussi, vous connaissez peut-être un petit peu l'offertoire, oui, l'offertoire de la messe de Requiem également, où l'Église invoque Saint-Michel. Ah, Saint-Michel. Saint-Michel, le porte-étendard, afin qu'il nous présente dans la lumière sainte promise jadis à Abraham. Ouais, c'est l'offertoire, l'ancienne offertoire de la messe des défunts. On invoque la Saint-Michel, hein, le porte-étendard. On lui demande qu'il nous présente dans la lumière sainte promise jadis à Abraham. Ou bien encore, oui, toute la liturgie des défunts, quand le corps ensuite quitte l'église, donc après toutes les cérémonies, l'absoute, etc., le corps va être emmené au cimetière pour l'inhumation, eh bien, c'était très bel hymne également, cette antienne magnifique, In Paradisum. C'est très beau, ça, In Paradisum. On pourrait tous le chanter ensemble, mais enfin voilà. In paradisum deducante te angeli. Que les anges vous emmènent au paradis, qu'à votre arrivée les martyrs vous accueillent et qu'ils vous introduisent dans la cité sainte Jérusalem. Que le cœur des anges vous reçoive et puissiez-vous, avec Lazare qui fut pauvre autrefois, posséder le repos éternel. Et, là, les anges sont en sens omniprésents. Et il est vrai que l'Église sait bien que les anges sont là tout le temps. Hein. Toute sa liturgie donc se déroule justement un petit peu dans cette ambiance, si l'on peut dire, angélique. Hein. Il est normal que dans ces messes que l'Église célèbre, eh bien pour ceux de ses enfants qui viennent de quitter la terre pour aller vers le ciel, eh bien c'est normal qu'elle appelle encore plus, vous voyez, que d'habitude peut-être, l'intervention des anges, hein, pour venir au secours de ses âmes et les introduire dans la béatitude. Voilà un petit peu, il y aurait bien des choses encore à dire sur les bons anges, ils en font tellement qu'on ne s'arrêterait pas d'en parler, mais bon, je crois qu'avec cela vous avez l'essentiel, hein, de ce que l'on peut savoir. Bien sûr, on peut imaginer encore mille autres choses, mais enfin, de ce que l'on sait, ce que l'on peut savoir, dire raisonnablement, sur l'existence, sur l'activité de nos bons anges. Voilà, je crois que pour une fois, je n'ai pas été trop bavard. Oui, c'est bien. Hein.